Radio FMR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, c'est Radio FMR, nous sommes le samedi 22 avril 2006, il fait beau, il fait chaud, et vous écoutez la radio. Et bah oui, quoi, comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines, supplément week-end, BD, cinéma, télévision, spécial Alan Moore, suivi du cahier du sport, hein, du sport, non, bon d'accord, ok, et à partir de 15h du mix, avec 15h en mode progression, 16h Big Bang qui reçoit WeFunk, qui a déserté Radio Campus pour une fois, pour une après-midi, 17h, vie d'ordure, c'est du punk, 18h... Protésez-vous. Ah mince, bon d'accord. Happy Hour à partir de 19h. Non mais nous on a déjà commencé pour l'apéro, donc c'est un peu tard. À partir de 20h, la Cétéro Expérience avec Fabrice et tout le reste. 21h30, Liquid Sky. Et à partir de 23h, la Jungle, le Drum and Bass avec Breakbeat Expérience, Radio FMR. On est un peu en démarrage à la couenne, à la toque comme ça.
Ouais, comme d'hab en fait.
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
C'est bien la preuve qu'on est en direct. François Penaud, bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Tout va bien.
Voilà, tu as apporté la programmation d'aujourd'hui pour l'ouverture de l'émission, puisqu'aujourd'hui c'est une spéciale Alan Moore, donc il va falloir que tu expliques un peu ce que c'est.
Oui, alors le morceau qu'on va entendre, c'est le début d'un spectacle d'Alan Moore qui a été réalisé en 1994, qui était un spectacle... Tout média, puisque Moore parlait, il y avait de la musique, il y avait de l'image, il y avait plein de choses. Et c'était un texte de Moore, comme d'habitude, qui partait un peu dans tous les sens, en partant de faits réels, quasiment autobiographiques pour certains, et en partant ensuite vers les théories mystiques de Moore, qu'il développe depuis une bonne dizaine d'années. Le spectacle s'appelle The Moon and... Non, je vais me tromper. Passe-le-moi parce que je vais me tromper, c'est trop long.
The Moon and Serpent, Grand Egyptian Theatre of Marvels.
Voilà, qui est le nom du groupe qu'il a fondé, qui est un groupe complètement informel. Et le premier morceau s'appelle The Hair of a Snake That Bit Me.
See the show.
Certainties must check them at the door and may retrieve them from the cloakroom staff upon their exit. Come inside, come inside, come inside.
Hallucinated rain in a mirage of gutter.
Ça, c'est la voix d'Alan Moore là, qu'on entend.
Absolument. Qui a un superbe accent du milieu de l'Angleterre que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, je veux me reconnaître.
Du sport est chargé dans sa lecture. Thomas ouvre un divin nectar et notre invité, c'est François Penaud. François Penaud, excuse-moi. François Penaud est professeur le jour, mais passé ses heures dues à l'éducation nationale, sa personnalité change, mute et fait d'irrépressibles dégâts dans la sphère bioculturelle française. Fanzine se reconvertit de Blackout, si je me souviens bien.
Oui.
Devenu spécialiste de la bande dessinée américaine, puis à force de coups de règle en fer sur les doigts des autres, tiens, un coup de bled, tiens, et deux bécherelles avec ça, et ben il est devenu correcteur en chef du site actuabd.com.
Ça sent le vécu quand même.
Et oui, depuis j'ai fait beaucoup d'efforts en correcteur automatique.
Ouais, j'aime bien te croire.
Mais s'il est une sommité, 2M, 1T dans l'art de corriger les articles, on oublie qu'il vaut pas loin de Jean-Paul Jeunequin pour ce qui est de la connaissance de la bande dessinée anglo-saxonne. À ce titre, il a traduit d'ailleurs New Gods de Jack Kirby chez Betty Edition, ça remonte un peu, et plus récemment Jack Be Quick de chez USA Edition, ça c'est beaucoup plus récent, et je sais plus quel enfoiré qui me l'a piqué d'ailleurs. D'un certain Alan Moore, ça tombe bien.
C'est moi.
Non, Alan Moore, c'est pas toi, mais Alan Moore, c'est le scénariste dont il est le spécialiste incontestable, en tout cas beaucoup plus proche et plus facile à mener à la radio que Jean-Paul Jeunequin. Ça tombe bien, Alan Moore, c'est le sujet de l'émission et c'est à propos donc de l'adaptation cinématographique par les frères Wachowski. Ouais, bon, enfin, on n'oubliera jamais leur nom dans le cinéma pour ce qu'ils ont fait pour ce qui est de Matrix. Jamais la lumière qui fait peur. Et Thomas pose les questions qui font peur.
Alors je voulais savoir comment tu t'es retrouvé traducteur de Alan Moore, toi le prof de maths. Parce qu'à part le fait que tu frimes sur la physique à la dernière page de l'album Jack Be Quick, je vois pas trop le rapport en fait. Alors bah c'est parce que Jean-Paul Jeunequin était trop occupé, il s'est dit je vais envoyer un copain et puis il est avec moi à disposition, donc voilà quoi. D'accord. Ça fait longtemps que tu es traducteur de Alan Moore ? Eh ben, Moore, oui, c'est récent, c'est ça. Je vais juste donner un petit coup de main à Jean-Paul Jeunequin pour les notes de fin de volume de From Hell, donc l'édition chez Delcourt. Mais sinon, avant, j'avais pas traduit de Moore. Et pour moi, c'est un grand moment de traduire du Moore.
Oui, enfin, on parle bien de Moore, scénariste, hein, on parle pas du fondateur d'Intel ou de qui que ce soit, ou encore de Roger Moore, ni
Michael.
On va pas confondre. Oui. Enfin voilà. Il y a du beau monde qui s'appelle Moore, ce qui n'est pas du tout une preuve de qualité, loin de là.
Alors que du beau monde s'appelle.
Non, c'était le temps. C'est le temps. Merci. C'était le temps de caler la musique qui fait peur. Jean-Pierre, je vous en prie.
Question. Alan Moore est, réponse A, super connu. Réponse B, reconnu par les initiés mais beaucoup moins par le public moyen. Réponse C, une star chez les anglo-saxons mais quasiment pas en France. Réponse D, un mégalo qui a pondu quelques histoires intéressantes.
Allez, disons B.
C'est sincèrement ton dernier mot, donc...
Réponse B.
Il a vraiment un public et il est pas très connu dans certains endroits.
Si, je pense qu'il est effectivement très connu en fait, très honnêtement, dans le milieu anglo-saxon. C'est quelqu'un dont l'œuvre a influencé énormément d'autres artistes de tous les côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Enfin, peut-être pas tous parce que en Arctique, je suis pas sûr que ça marche. Mais en fait, je pense que ses œuvres personnelles sont relativement peu connues.
D'accord.
Voilà.
C'est-à-dire c'est plutôt les œuvres mainstream, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait il a deux aspects, Moore. Il y a l'aspect mainstream avec Watchmen, ça c'est certain. Vif en état un tout petit peu moins, mais bon, maintenant évidemment là les ventes de Vif en état aux États-Unis ont absolument explosé ces derniers mois, littéralement explosé. Je crois que depuis la sortie, mais le bouquin lui-même, hein, l'album est sorti il y a une quinzaine d'années, un truc comme ça. Je crois qu'ils en sont à plus de 500 000 exemplaires.
Ah, ça fait plus que ça, le Vif en état.
Non, tout confondu.
Oui, mais fait pour Vendetta, je crois que les bouquins. Il a commencé à publier. À le dessiner en 83.
Si c'est pas dessiné, c'est un scénariste.
C'est vrai.
Bravo!
Et paf! Donc, V for Vendetta a démarré dans un magazine anglais qui s'appelait Warrior, c'était début 82, en même temps que Marvel Man, dont on reparlera. Donc, dessiné par David Lloyd, mais en fait, Lloyd a participé au scénario et à la conception de l'histoire aussi. Ensuite, ça s'est arrêté quand le magazine s'est arrêté. Ça a redémarré à la fin des années 80, après Watchmen, chez DC Comics, et ça a été terminé à ce moment-là. Et ensuite, l'album est paru relativement peu de temps après, ce qui à l'époque était très rare d'ailleurs, parce qu'il y avait peu d'albums dans les comics. Et depuis, bah, c'est une des meilleures ventes régulières de chez DC Comics. Un peu moins que Watchmen.
D'accord. Donc il a commencé une période qui est charnière, qui est assez particulière, qui est un moment où en Angleterre il y a quand même une scène de bande dessinée qui est assez importante. On pensera bien évidemment à Sylvester Stallone dans une version américanisée.
Oui, non.
Mais quand même.
On parle
quand
pas
même.
Des choses qui font mal.
Oui, mais quand même, c'est une bande dessinée qui est assez violente, assez dark, qui se produit à ce moment-là en Angleterre, une SF assez dure.
Beaucoup moins aseptisée que les comics américains, mainstream en tout cas.
Voilà, avec quand même des publications qui sont assez riches à cette époque.
Ben en fait, oui, là t'es en train de parler de 2000 AD, qui est donc un magazine qui a commencé en 77-78, je sais plus, et dont le personnage le plus connu est Judge Dredd, effectivement, qui a subi quelques avanies de la part de Stallone, mais qui s'en est très bien remis puisqu'il continue à être publié. Dredd a jamais vraiment pris aux États-Unis, en fait, ce qui est pas très étonnant d'ailleurs, parce que effectivement, quand on passe de Spider-Man à Dredd, moi je me souviens des publications françaises, je sais pas si t'as connu ça, les premières publications chez Reddit, ça devait être milieu fin des années 80, je me souviens plus exactement, et je me souviens avoir lu les premières histoires dessinées par Brian Bolland. J'ai pas osé les montrer à mes parents.
Ah oui, c'est
j'étais pas si vieux que ça, d'accord, enfin bon quand même.
Donc c'est vrai que c'est une inspiration, l'Angleterre arrive à se relancer après une période où ils ont quand même subi les États-Unis. C'est aussi un peu la génération métal hurlant, hein. On peut la définir comme ça.
Mais ils ont aussi subi Thatcher.
Mais ça, on y vient, ça on y vient, ça on y vient justement.
On en parlera pour V, ça.
Exactement. Mais là où c'est très intéressant, c'est que Alan Moore a commencé avec dans une période très forte pour les scénaristes anglais qui ont littéralement ratiboisé le comics jusqu'aux États-Unis.
Là, tu sautes quelques années. Hein.
Je saute quelques années, oui. Mais quand même, c'est là où il y a l'apparition de Garth Ennis et tout ça.
Beaucoup plus tard, Garth Ennis. C'est beaucoup plus tard. Moore est en fait le premier scénariste anglais à avoir été appelé aux États-Unis. Donc ça c'est 83-84, un truc comme ça. Il était déjà connu en Angleterre avec V for Vendetta et Marvel Man qui était publié en magazine, en épisode. DC Comics s'est dit on va le récupérer parce qu'il est intéressant ce petit gars. Et
il n'est pas allé chez Marvel pour une histoire, je crois, de pétage de plomb autour d'une licence. Marvel qui revendiquait le nom Marvel.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a bossé. Il a bossé assez tôt chez Marvel version Angleterre, c'est-à-dire qu'il y avait une sous-firme Marvel qui s'appelait Marvel UK, qui a duré assez longtemps d'ailleurs, et qui a publié entre autres les aventures de Captain Britain, sur lesquelles Moore a travaillé. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il en a fait de grandes choses avec Alan Davis au dessin. Donc je reprends sur DC rapidement. Il a été accueilli chez DC Comics pour Swamp Thing, première moitié des années 80, sachant que Swamp Thing était donc un personnage qui était de énième zone après avoir connu.
C'est la période ici, ça. C'est ouais. Ça date des années 40-50. Hein.
Ah non, Swamp Thing est un personnage qui date de la fin des années 70, ah. qui a été créé par Len Wein et Bernie Wrightson.
Il me semblait qu'on le voyait arriver.
Non, tu confonds avec d'autres. Il y a eu d'autres personnages dans les comics qui étaient du même genre. C'est des personnages. Le principe, c'est t'as un type qui tombe dans un marais et hop, il en ressort. C'est une grosse bébête avec plein de plantes partout. Et il y a un personnage des années 40 qui s'appelait The Hip, effectivement, mais qui a donc influencé. Il y a un certain nombre de personnages qui viennent des marais. D'ailleurs, il y a un bouquin qui devrait sortir aux États-Unis bientôt qui va s'appeler, je crois, Swamp Monsters ou un truc comme ça, et qui parlera entre autres de Swamp Thing. Il y en a un autre qui est connu en France, qui est le Man-Thing, qui est de chez Marvel pour le coup, qui a commencé exactement au même moment que Swamp Thing, et qui a connu de grandes heures lui aussi. Je vais être méchant, j'allais dire pas au dessin, c'est pas très gentil pour Mike Plug, mais au scénar, il y a eu de très très bonnes choses qui ont été faites. C'était un personnage très noir à l'époque où Marvel publiait des choses qui étaient totalement hors super-héros en fait.
D'accord.
Ça a bien changé depuis.
Oui, bah ok, on y va franchement. Mais c'est vrai que Alan Moore a fait partie de cette génération qui ont réussi à s'implanter aux États-Unis.
En fait, a été un peu. Enfin, je pense qu'on peut dire qu'a été un peu le j'allais dire le grand-père là non plus, c'est pas gentil. Mais en tout cas, c'est lui qui a commencé. Enfin, c'est un des premiers noms aux États-Unis de scénaristes identifiés. Il y en avait eu quelques-uns avant, il y avait des gens comme Steve Gerber ou Don McGregor à la fin des années 70, mais Moore a vraiment été celui qui a installé le scénariste en tant que créateur de départ.
Avant Stan Lee,
c'est complètement absurde. C'est compliqué parce que Stan Lee c'est un peu plus compliqué que ça, pour autant que je sache, mais là il y a des discussions sans fin qui continueront jusqu'à la fin du monde et un peu après sur la place et le rôle de Stan Lee dans la création de Marvel. Il est évident qu'il a eu un rôle très important. Il suffit de voir ce qu'a fait Jack Kirby après, qui avait, bon, les scénarios de Kirby sont intéressants en soi, mais il y a pas la même énergie, la même vitalité, le même humour que chez Stan Lee, faut quand même le reconnaître. Donc Stan Lee a une importance, c'est certain, mais Moore, je pense, a été le premier scénariste en tant que quantité intellectuelle, réellement. Le premier scénariste au sens, le premier auteur au sens, disons, cahier du cinéma du terme.
D'accord.
Qui a amené des thèmes, sachant qu'il y en avait d'autres avant lui, mais il n'était pas aussi reconnu. Voilà. Et il est évident que le développement de Swamp Thing par Moore a été un grand moment de la bande dessinée américaine. Ça a été le début d'ailleurs de la bande dessinée grand public adulte. Je dis pas qu'il y avait rien eu d'autre avant, bien évidemment, hein. Mais au point de vue nombre de ventes, le fait que ça soit DC Comics, c'est-à-dire l'une des deux grosses boîtes américaines, et donc il est évident qu'il a eu un rôle très important à ce niveau-là. Et ensuite, la deuxième génération, ça a été Neil Gaiman, Peter Milligan, Jamie Delano, ce qui veut pas dire qu'ils sont tous plus jeunes que Moore d'ailleurs, mais au niveau publication. Et ensuite, troisième génération, Garth Ennis, entre autres. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi vis-à-vis des scénaristes anglais par rapport à la plupart des scénaristes américains, c'est leur relation avec la littérature, avec la culture au sens noble et général du terme, et notamment Alan Moore. C'est assez impressionnant quand dans la plupart de ses bouquins, le nombre de références qu'il cite, que cela soit musical, que cela soit littéraire, que cela soit théâtral, et encore plus dans V pour Vendetta, c'est quand même une relation qui est très forte de ce côté-là.
Oui, effectivement, je pense que l'une des choses qui a marqué les lecteurs par rapport aux scénaristes anglais, c'est qu'ils ont eu l'impression qu'effectivement il y avait enfin des gens qui, toujours pareil dans la BD grand public, parce que d'autres choses ont été faites autre part, mais dans la BD grand public américaine, ils ont eu l'impression que enfin des scénaristes amenaient autre chose que j'ai lu 30 ans, enfin 20 ans de comics Marvel avant et je connais tous les comics Marvel. Bon, ce qui est totalement injuste parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait des choses même chez Marvel, comme je le disais il y a deux minutes, mais c'est l'impression que ça a donné. Et effectivement Moore et d'autres sont des gens qui ont une culture très large, qui s'intéresse à plein de choses. Bon, Gaiman par exemple est connu pour avoir une connaissance en mythologie diverse et comparée absolument incroyable. Et Moore, lui, c'est plutôt effectivement du côté, pendant très longtemps en fait, les œuvres de Moore ont eu des aspects politiques, et même encore maintenant d'ailleurs, des aspects politiques très marqués, évidemment Vie étant Vendetta étant l'exemple type de l'œuvre politique d'Alan Moore.
D'accord. Thomas.
Ces références littéraires, ces orgies de il faut être vachement cultivé pour apprécier quand même ce que fait Alan Moore. Est-ce que ça ne s'adresse pas à un public érudit? Est-ce que ça met pas un peu de côté le reste?
Je pense que pour Frommel c'est un peu différent probablement, mais pour V ou Watchmen, je pense que ce sont des œuvres assez riches pour être appréciées à différents niveaux. Moi, ce sont des œuvres que j'ai découvertes à 17-18 ans. Il est évident que j'ai pas vu toutes les références culturelles, historico-politiques que Moore a pu mettre. D'ailleurs, je suis même pas sûr que j'ai vu tout depuis, mais bon.
Ça donne envie de suivre vraiment les cours de son prof? Je veux dire, ça t'a donné un peu la vocation, quoi.
Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour moi, Moore fait partie des gens, et dans tous les domaines, des gens existent comme ça, des gens qui donnent envie, qui font dire au lecteur, là, il y a quelque chose que je connais pas, je vais aller voir. Moi, je sais que Moore, et il n'est pas le seul, Moore m'a donné envie d'aller me plonger dans des bouquins, dans des idées que je connaissais pas. Cela dit, ça remonte à plus loin. Je sais pas si vous avez lu, par exemple, un petit exemple en passant. Les X-Men de Claremont, à l'époque où les X-Men se retrouvaient dans l'enfer de Dante. Il y a une histoire où les X-Men se retrouvaient dans l'enfer de Dante. Il y avait les X-Men qui rentraient dans un grand enfer où on voyait marqué sur la porte « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance ». Je ne connaissais pas particulièrement la Divine Comédie de Dante à l'époque. J'étais au collège et j'ai été chercher la Divine Comédie qui était au collège, dans la bibliothèque du collège. Je suis pas sûr que ça se produirait très souvent maintenant. Et donc j'ai lu une partie de la Divine Comédie comme quoi on peut s'intéresser à tout et n'importe quoi en partant de tout et n'importe quoi.
Ouais, bon ça c'est bien beau, mais rassure-nous, Alan Moore il a quand même fait des merdes quand même.
À mon avis, pas des masses. Ah. Je crois que j'ai lu à peu près 99% de ce qu'il a lu, de ce qu'il a écrit, et même peut-être plus. Et moi, il y aurait quoi deux, trois histoires. Une, deux. Allez, j'en ai deux comme ça qui viennent en tête. Où vraiment, je me dis que là, quand même, il devait pas être en forme ce jour-là.
D'accord.
Ouais, donc j'ai sauté une question dans le plan qu'on avait fait. Excuse-moi Xavier, je
reprends.
Oui,
tous les dérapages sont prévus, tout est sous contrôle.
C'est impressionnant.
Hein.
Voilà. Alors avec toutes ces références qu'il met dans ses bouquins avec des multiples niveaux de lecture, combien de temps met-il pour pondre un scénar en moyenne? Est-ce qu'il est prolifique? Est-ce qu'il s'écoule beaucoup de temps entre deux scénars qu'il fait? En clair, est-ce qu'il est plutôt Kubrick ou Soderbergh?
Mon Dieu. Je pense que, enfin, pour ce que j'en ai lu et pour ce qu'il en a dit, Moore est quelqu'un dont les scripts sont des premiers jets. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne les réfléchit pas avant. Suivant les œuvres, il est évident que quelque chose comme Fromel, il y a des années et des années de lecture de la part de Moore. Pas obligatoirement d'ailleurs des années pendant lesquelles il s'est dit je vais écrire une BD, mais simplement il s'intéresse à un sujet, il commence à lire comme n'a fait n'importe quel auteur qui se documente tout simplement quoi. Et suivant les œuvres, il y a des œuvres qu'il a écrites où par exemple il y a des numéros de Prométhéa, je sais pas si on aura l'occasion de parler de cette BD, il y a des numéros de Prométhéa, en particulier certains qui sont parmi les plus complexes, qu'il a écrits à la suite en quelques heures. Mais il était dans un certain état, à mon avis, à ce moment-là. Je parle pas de drogue, hein, mais disons dans un état mental, de préparation et tout ça. Après, pour des choses comme V ou Watchmen, je pense que c'est variable. Watchmen, le début, il a été très travaillé avec Dave Gibbons, avec le dessinateur. Ils ont construit le monde sur lequel ils voulaient travailler. Ils ont construit des personnalités, des références historiques, etc., etc. Et Moore s'est mis à écrire. Mais ce qui est certain, c'est que pour ce que j'en ai lu, il dit que 99% de ce qu'il a écrit, c'est du premier jet. Il se met à sa machine et il tape. Point à la ligne. Voilà. C'est le stream of consciousness, comment dire en anglais. C'est vraiment j'y vais, quoi.
Mmh. Et comment il travaille-t-il dans ce cas-là avec ses dessinateurs, puisque ses scénarii semblent fourminés de détails visuels, oui. Notamment je crois que Watchmen c'est peut-être l'une des BD les plus riches sur l'apprentissage du cadrage, de la mise en page et du détail récurrent.
Alors les scénars de Moore, dont un certain nombre ont été publiés, donc ça c'est vrai que pour les amateurs c'est assez passionnant, en anglais il y a un paquet de scénars de Moore qui ont été publiés, entre autres par exemple les scénars de deux volumes de League of Excellent Gentlemen. Donc ça, c'est une source de d'études absolument remarquable. Même si en fait, on ne voit que le produit fini. En fait, on voit pas le travail de préparation. Donc effectivement, les scénars de Moore sont réputés pour être extrêmement détaillés. Par exemple, sur Watchmen, il est connu qu'il y a des pages, par exemple, des pages et des pages entières sur une case. Mais Moore a dit et redit que c'est pour donner des indications au dessinateur et que le dessinateur est libre de suivre ou pas. Par exemple, quand il a travaillé avec Bill Sienkiewicz, moi j'ai eu en main le scénar d'une BD qu'il a faite avec Sienkiewicz, où en fait Sienkiewicz a laissé tomber un paquet de détails, mais pour le remplacer par ses ambiances à lui. Et c'est tout aussi intéressant. Donc en fait, c'est vraiment un document de travail pour le scénariste, et après le scénariste fait ce qu'il veut.
Voir est-ce qu'il y a des dialogues des fois sur une référence, sur le dessinateur qui dit au scénariste « Moi j'aurais bien aimé rajouter telle référence à tel bouquin » et tout.
Ah ça c'est certain. Alors ça dépend des œuvres, mais par exemple Vifor en état ou Watchmen ne sont pas des œuvres seulement de Moore. Vifor en état, Lloyd a une énorme influence dans la création et la direction qu'a pu prendre le personnage de V et l'histoire de différents états. Et Watchmen, c'est pareil. Gibbons a eu une importance énorme dans la création du monde de Watchmen. D'après ce que j'ai compris, plutôt au niveau technique, c'est-à-dire tout ce qui est technologie du monde de Watchmen, si on regarde, même si c'est complètement en fond, en décor, il n'empêche qu'il y a une technologie qui est développée, par exemple, avec ces voitures qui sont à électricité, ces cigarettes qui ne sont pas des cigarettes, là, avec ces petites boules, là, etc., etc. Bon, il y a tout un truc qui a été créé par Gibbons, sachant qu'il a fait des études, alors je sens que je vais dire des bêtises, je sais que c'est des études au niveau technique, enfin plutôt du côté technique.
T'inquiète, tu peux pas dire plus de bêtises que moi.
Je ne sais plus des détails, donc j'aurais dû rien dire, dommage.
Donc visiblement c'est un technicien qui a en plus
voilà, enrichi. Il a des connaissances dans ce domaine.
C'est vrai que le dessin technique on le ressent beaucoup. C'est...
Alors que Lloyd, il est clair que Lloyd est plus un dessinateur d'ambiance.
D'accord. Sur la plupart des BD qu'il a écrit, on va parler là des trois grandes classifications qu'on a complètement arbitrairement imposées. Mais ça on le fait après la pub. Quelles sont à peu près les grandes œuvres que l'on peut classer? Je sais, ça c'est horrible.
J'ai combien de temps? Une heure ou deux seulement?
5 minutes.
D'accord. Alors, donne-moi la classification que tu veux que j'utilise déjà.
Bah, la classification, on avait décrété qu'il y avait le monde réel d'un côté, qu'il y avait les super-héros et qu'ensuite il y avait ce qui concernait en fait la magie.
D'accord, ok. Alors,
Donc tu t'es complètement planté, c'est pas du tout ça.
Je tiens à signaler que François Penaud a participé à la mise en place d'une exposition à Alan Moore.
Seulement au catalogue.
Excuse-moi, d'accord, voilà. Qui a eu lieu en Belgique, à Charleroi. Voilà.
Oui. Donc, voyons, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Chronologiquement, ça tient pas, bien évidemment, puisqu'il y a eu des retours de Moore à différents thèmes et à différentes ambiances, à différents genres. Dans les BD qui seraient liés au monde réel, moi je suis pas tout à fait d'accord pour mettre différents états dans la BD liée au monde réel, mais bon, c'est sûr qu'il y a des thèmes politiques. Mais il y a par exemple, dans les grandes œuvres, il y a une œuvre qui est très peu connue, qui d'ailleurs vient d'être éditée en France. Je suis pas sûr du titre français, en anglais c'est Small Killing, donc c'est quoi en français? C'est Petit Meurtre, la première édition chez Zenda, et maintenant je crois que la nouvelle édition c'est Une Petite Mort, quelque chose comme ça. Ça vient juste de ressortir en français, c'est totalement indispensable. Le dessinateur qui s'appelle Oscar Zarate est quelqu'un qui a énormément fait travailler Moore et qui a obligé Moore à aller beaucoup plus loin que ce qu'il savait faire. Il le reconnaît lui-même, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moore a dit que Zarate l'avait repoussé dans ses derniers tranchements et même un peu au-delà. Donc ça donne une œuvre complètement réaliste dans la thématique, puisqu'il y a des éléments légèrement fantastiques, mais dans la thématique, sur un homme qui est hanté par un petit garçon, et on ne sait pas trop ce que ce petit garçon lui veut, mais c'est remarquable au niveau psychologique. Fromel aussi a des éléments évidemment totalement réalistes, puisque c'est une étude, enfin non, c'est une histoire autour des événements de l'éventreur, donc c'est pas du détective, hein. C'est pas qui est l'éventreur, le meurtrier est connu dès le début, mais il y a énormément de thématiques, par exemple féministes, historiques, sur le développement du XXe siècle et tout ça. Après, au niveau super-héros, il est évident que Watchmen est un comics de super-héros, le transcende complètement, mais est un comics de super-héros. On peut citer aussi, par exemple, les œuvres plus récentes comme le League of Extraordinary Gentlemen, qui a des aspects super-héros, mais qui a aussi des aspects pulp, des aspects aventure fin 19e, feuilleton début 20e, etc. Donc en fait, les choses sont très complexes chez Moore. Il est rare qu'on puisse mettre une œuvre dans une catégorie. Et puis, il y a un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas parues en France, qui rentrent totalement dans le réalisme. Par exemple, celle dont je parle avec Sienkiewicz, qui est une étude de 40 ans de manipulation de la CIA et qui est absolument remarquable. Ça s'appelle Shadowplay, qui est totalement oubliée puisqu'elle n'a pas été rééditée depuis une bonne quinzaine d'années. Peut-être plus même, d'ailleurs, c'est plutôt 20. Et je vois mal ça paraître en France, malheureusement.
C'est un peu dommage. Oui, oui. Ça
40 pages de Bill Sienkiewicz à son plus haut niveau.
Ah bon, on va te laisser souffler et manger quelques-unes des olives et boire un pot, puisque on fait une petite pause musicale et après on va enchaîner avec la publicité. We'll be right back. 30 minutes et 4 millièmes sur l'horloge atomique de Radio FMR. C'est supplément au week-end, c'est pas la peine de remettre ses casques, puisque c'est l'heure de la publicité que nous recevons François Penaud, qui a le temps comme ça de boire un peu, à propos donc d'une spéciale autour d'Alan Moore.
Nous partons dans l'espace, loin, très loin dans l'espace.
C'est comme un grand voyage.
Un grand voyage.
Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension.
Mais c'est de la science-fiction.
Rendez-vous dans l'espace, tous les lundis 19h, sur FMR, 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 FMR.
Bon, c'est vrai qu'on a fait une classification totalement artificielle. Non, remets le casque, je t'en prie. Je t'en prie. Ah, c'est vrai qu'on a fait une classification totalement artificielle. T'as parlé de Grand Teuf tout à l'heure, ça m'a fait rigoler. Et c'est pour la suite. Mais donc, tu parlais de cette BD autour de la CIA, oui, et tout ça. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ce que l'on a mis dans le monde réel. Donc il y a V pour Vendetta, Franel, etc. pour des thèmes qui sont principalement politiques, et notamment dans V pour Vendetta, il y a un laïus pour l'anarchie qui a été complètement squeezé dans l'adaptation cinématographique. Alors est-ce que ça c'est un reste d'adolescence?
Non, Moore à l'époque où il a écrit V, c'est-à-dire en gros entre 82 et 88, quelque chose comme ça, était encore à l'époque, je pense qu'après ça devait être encore le cas, était profondément anarchiste au sens politique du terme. Donc ça c'était une théorie politique qui lui convenait. Je sais pas trop s'il a évolué, je pense qu'il a relativement évolué là-dessus, mais il était vraiment anarchiste. Et il est certain que V, en fait, le cœur politique de V n'est pas un démocrate contre un système fasciste, mais un anarchiste contre un système fasciste. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant. Je ne connais pas d'équivalent dans la BD anglo-saxonne de ce point de vue-là politique. Je dis pas qu'il y en a pas, mais moi j'en connais pas en tout cas.
C'est quand même à une période qui est assez importante, puisque Margaret Thatcher, voilà, est arrivée au pouvoir en 79.
Il y a une intro dans V for Vendetta qui est très intéressante et qui a beaucoup marqué les lecteurs, qui l'ont reproché d'ailleurs à Moore, où Moore dit que en gros, franchement, l'Angleterre devient de plus en plus noire et de moins en moins amusante. Il parle entre autres des projets de camps d'internement pour les malades du SIDA, toutes ces charmantes choses qu'ont sorti le gouvernement Thatcher à l'époque, et il dit je sais pas si je vais rester. Et ça lui a été reproché il y a plusieurs années après, en disant ouais, bon, vous aviez dit que vous partiriez, mais bon, vous êtes resté. Bon, les choses ont changé, sa situation familiale a changé, puisqu'à l'époque il vivait avec sa femme et ses deux filles, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc voilà, bon, bah, comme tout le monde change, ça c'est bien normal, mais je pense que les idées politiques dans V for Vendetta sont autant celles de Moore que celles de Lloyd. Encore une fois, Moore a une personnalité et des idées tellement fortes et tellement reconnaissables qu'on oublie souvent l'apport des dessinateurs. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais Lloyd a eu un apport extrêmement important dans V for Vendetta à tous les niveaux.
D'accord.
Ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, lui semble avoir apprécié le film, comme quoi les choses sont plus complexes. Ça, on en reparlera tout à l'heure.
Ça, c'est peut-être par contrat. Hein. Tout à l'heure. C'est peut-être par contrat, mais justement.
Non, ça je crois pas.
Bon. D'accord. Accessoirement, dans From Hell, oui, dont l'adaptation, elle, n'a absolument rien à voir avec le bouquin. D'ailleurs, le bouquin est extrêmement intéressant. Il y a l'enquête et l'errance dans Londres. Et de même qu'on retrouve exactement le même aspect dans V pour Vendetta, quand l'agent du nez essaie de retrouver le lieu où se terre V.
Oui.
C'est des thèmes qui sont récurrents, c'est la découverte d'une grande solitude dans la ville.
En fait, je pense que dans From Hell, alors V, je pense que c'était pas le cas à l'époque, mais dans From Hell, Moore a plusieurs fois parlé des théories de la psychogéographie, qui sont des théories en gros, très en gros, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises, mais très en gros, disant que les lieux, la façon dont les lieux sont agencés peut influencer la psychologie des gens, et donc que les lieux ont une histoire, ont une importance en tant que être, si ce n'est vivant, du moins
c'est Dark City en fait,
complètement. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important dans Fromel. Et on voit d'ailleurs dans plusieurs BD de Moore l'importance des lieux. Si on pense par exemple à la collection ABC où il y a donc Promethea, Top Ten.
ABC, c'est la collection de comics qu'il a créé. Hein.
Voilà, fin des années en 99. Et dont une partie est parue en France, mais pas tout, puisqu'en ce moment il y a des problèmes de droit. On peut espérer que ça va être résolu bientôt, mais il y a des gros problèmes de droit en ce moment entre DC et l'Europe. Il y a des négociations en cours. Bon, et donc dans ABC, chaque série se passe dans une ville ou un lieu ou une ambiance précise qui a été travaillée et qui fait partie intégrante de l'ambiance de la série. Et il est évident que par exemple dans Fromel, là c'est carrément un autre niveau, puisqu'effectivement, comme tu disais, il y a un chapitre entier d'une quarantaine de pages que d'ailleurs un certain nombre de lecteurs ont eu du mal à suivre parce que ben il se passe rien pour les lecteurs de base, quoi, disons. Enfin,
oui, parce qu'il fait que il fait
c'est
que
une balade dans Londres, hein, voilà, oui. Où en fait on découvre divers lieux dans Londres qui ont une importance dans l'histoire.
Moi, c'est la partie qui m'a certainement le plus intéressé dans Fromel et qui m'a fait envie de retourner à Londres ces endroits, oui. Bon, que je connais en général, mais oui. Bon, avec il rajoute des détails, un autre œil, et oui. Bon, ça donne vraiment envie d'y retourner. Quoi,
et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il faut savoir que Moore a fait ce trajet-là. Le trajet qu'il décrit dans Fromel, sachant qu'il a pas pu le faire de la même façon que dans Fromel, puisque dans Fromel c'est en calèche, et là bon bah il a dû utiliser soit à pied soit en voiture avec l'essence interdite et tout ça, mais il a refait ce trajet et il dit qu'on peut faire ce trajet actuellement. J'avoue que j'ai pas essayé, je suis pas retourné à Londres depuis un petit moment moi par contre, et ce qui est sûr effectivement, c'est que donc ça a une importance au-delà de la description de Londres, de ce Londres qui est à la fois millénaire, à la fois très moderne, très ancien, très très victorien à l'époque, hein, évidemment, et en même temps très important pour ce qui va suivre dans l'histoire. Dans cette description-là, il y a une importance psychologique énorme en fait. Londres a un rôle psychologique dans l'histoire. Et c'est pas le premier à avoir fait ça. Moore dit lui-même, là, quand on parlait de références culturelles, qu'il s'est inspiré de travaux, de livres, de romans ou d'essais de différentes personnes qui sont totalement inconnues en France d'ailleurs. Et j'avoue que j'ai essayé de lire un ou deux de ses romans. C'est beaucoup plus dur à lire que Fromel.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que il brocarde pas mal justement ce que tu disais, la droite nationaliste et tout ça. Quand dans Fromel, si je me souviens bien, il y en a un qui dit ce meurtre ne peut pas être fait par un Anglais. C'est marrant, on a une impression de revenir dans certaines méthodes de la police anglaise dans les années 80 et les relations vis-à-vis des immigrés.
Ah, bah, je pense que de toute façon, à partir du moment où tu décris un système qui est soit fasciste, soit qui est fascisant, fachoïde ou ce que tu veux, son comportement vis-à-vis des minorités en général est généralement à peu près le même. Voilà. Donc, bon, évidemment, ça joue. Dans Fait fort en d'état, par exemple, il y a souvent des références au fait que les minorités ont été exterminées, donc les immigrés, les homos, je sais pas quoi d'autre, enfin tout ce que tu peux mettre dans minorité, de toute façon. Et ça, pour Moore, c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui a une conscience politique et une conscience sociale extrêmement développée, et ça se voit dans ses BD.
D'accord. Ok. On va parler de mutation dans un petit instant. vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz sur le site internet de la radio, c'est www.radio-fmr.net, et vous pouvez les aussi réécouter toutes les anciennes émissions et tout. C'est vrai que François Penaud demande hors antenne s'il parle pas un peu trop vite. Et ben je vous rassure, vous pouvez télécharger l'émission dans votre baladeur ou sur votre ordinateur
et ralentir le son de ma voix pour arriver à comprendre ce que je raconte
ou revenir en arrière, c'est bien pratique des fois. On avait dit qu'on séparait aussi qu'on gardait un peu à part, et ben il y a les super héros.
Oui.
Et moi je me souviens, Thomas, quand je lui ai fait lire Watchmen pour préparer cette émission, il m'a regardé d'un air quand je lui ai dit mais si, je te jure, les super héros, je comprends à la limite qu'ils défendent le monde, mais les justiciers, c'est des désaxés notoires. Alors vrai ou faux, est-ce qu'un justicier n'a pas mieux sa place finalement à l'asile d'Arkham que sur les toits?
Ça, c'est une question postmoderne fin 20e siècle qui n'a aucun sens par rapport à la création de super-héros au niveau des années 40. La création des super-héros dans les années 40, en gros, Superman c'est 38, Batman c'est 39, Captain America c'est 40-41. À ce moment-là, ces personnages-là, ce sont des descendants des pulp américains. Donc il y avait déjà des justiciers qui généralement étaient d'une violence assez remarquable. Si on lit des bouquins du Shadow par exemple, qui a été connu pour les émissions de radio faites par Orson Welles, c'est une violence, mais. À côté de John Woo, c'est Mary Poppins, quoi. Bon, c'est pas méchant pour John Woo, j'aime beaucoup John Woo.
C'est référence au t-shirt du sport aujourd'hui.
Voilà, j'osais pas le dire, mais bon. C'est dommage, vous avez pas l'image. Donc voilà. Donc plus sérieusement, il faut remettre les choses à leur place. Les super-héros, pendant longtemps, on se posait pas cette question-là. L'idée des super-héros, c'est quand même en gros, vous avez des pouvoirs et vous allez les utiliser pour le bien de la société. Il est évident que quand on commence à y réfléchir de façon adulte, ça ne tient pas la route, bien évidemment. Hein. On a immédiatement des problèmes de vigilant. Je fais du franglais là. On a des problèmes de gens qui prennent la loi entre leurs mains, donc c'est complètement antithétique avec un état démocratique. Donc si on commence à penser à ça, on peut plus dire du tout du super-héros, ça c'est certain.
Oui, mais c'est assez intéressant parce que finalement, justement, pour essayer de sauver les humains d'eux-mêmes, jusqu'où on est capable d'aller, ça on le voit dans Watchmen, c'est très fort.
C'est-à-dire que Watchmen, c'est vraiment. C'est une œuvre qui a influencé, et pas qu'en bien malheureusement, la bande dessinée américaine, puisque je pense que Moore et Gibbons ont voulu introduire un certain niveau de réalisme dans leurs histoires. D'ailleurs, il n'y a qu'un personnage fantastique dans Watchmen. Les autres...
Docteur Manhattan.
C'est le seul super-héros, tous les autres sont des justiciers.
Tous les autres sont des justiciers, si tu veux utiliser cette nomenclature-là.
Et c'est ça qui est rigolo d'ailleurs, puisque tous les autres, c'est des... t'as Rorschach, c'est un psychopathe, t'en as plein qui sont... Il y en a un qui est fasciste, le comédien, et t'as Docteur Manhattan, lui, c'est...
Fasciste, il est réactionnaire.
C'est pas voilà, chose, c'est un mercenaire. Ouais. Et t'as le docteur Manhattan qui à côté, c'est quasiment Dieu. Quoi,
ouais. En fait, en deux mots, pour replacer l'histoire de Watchmen dans le contexte, quand Moore et Gibbons ont proposé le projet de Watchmen, donc ce qui littéralement en gros veut dire les gardiens, en français c'est d'ailleurs le titre, je crois. Si tu dis pas de bêtises, c'est gardien,
oui, c'est ça.
Gardien. Bon, donc quand ils ont proposé ce projet-là au milieu, en 84, 85, quelque chose comme ça, à DC Comics, ils ont proposé une histoire utilisant des personnages qui n'appartenaient pas à DC Comics peu de temps avant et qui venaient d'être achetés par DC Comics. Bon. Et donc ils ont proposé un projet, mais vu ce qu'ils faisaient subir aux personnages, les éditeurs de DC ont dit écoutez, c'est super sympa ce que vous nous proposez, mais franchement on préférait que vous nous proposiez une histoire avec des personnages originaux. Donc ils ont reconstruit l'histoire en créant des nouveaux personnages qui sont clairement des décalques des personnages d'origine qui sont totalement inconnus en France, je ne vais même pas en parler. Bon. Et effectivement, le seul personnage fantastique, c'est donc Dr. Manhattan, qui dans les BD d'origine s'appelait Captain Atom, qui d'ailleurs est un personnage de DC qui existe encore, qui avait des pouvoirs atomiques, qui s'était pris, une centrale nucléaire sur la tête, un truc comme ça. Bon. Et Dr. Manhattan, lui, par contre, il a son champ quantique là, qui est détruit, et donc ses pouvoirs sont liés à la mécanique quantique, qui est une des théories scientifiques qu'aime bien Moore, puisque justement, dans mon Jack B. Quick, il y fait souvent référence de façon assez hilarante, mais c'est sûr que si on connaît pas Schrödinger et son pauvre chat, on ne comprend peut-être pas trop les références. Vous avez qu'à lire mes notes comme ça, donc ça sert à quelque chose que je me suis embêté à faire. Alors, le personnage Dr. Manhattan, Moore l'a utilisé de façon extrêmement poétique. Alors, ça, c'est une des caractéristiques de Moore qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à utiliser des idées scientifiques assez sérieusement et assez correctement, mais à leur insuffler une poésie qui est absolument remarquable. Par exemple, justement dans Watchmen, le passage où Dr. Manhattan est sur Mars avec Laurie, et il y a toute une discussion sur la valeur de la vie humaine. Au début, Dr. Manhattan dit « Mais quantiquement parlant, il n'y a aucune différence entre un corps mort et un corps vivant. » Bon, Et à la fin, en fait, il change d'avis et il dit que, en gros, la vie est un miracle thermodynamique, au sens miracle, au sens ça devrait pas se produire, et que ça lui donne son prix justement. Et donc là, j'essaierai pas de citer Moore, vous irez voir Watchmen, qui, je pense, est très bien traduit. Hein, Manchette avait fait un beau boulot. C'est toujours la traduction.
C'est Léo Manchette qui a fait la trad.
Oui, Manchette.
Zenda avait à disposition. En fait, Zenda était, c'était dirigé ou co-dirigé par Doug Edlein, qui, si je dis pas de bêtises,
c'est le fils.
Le fils de Jean-Paul Manchette. Voilà.
Ah oui, ça d'accord.
Ça aide d'avoir un traducteur de ce niveau-là, c'est certain.
Donc Léo Manchette est quand même reconnu comme étant un auteur de polar, mais aussi un très très bon traducteur de romans. Donc c'est ça qui est intéressant.
Et donc, c'est ça. Manhattan qui dit à Laurie, viens, sèche tes yeux, car tu es la vie, plus rare qu'un quark et imprévisible au-delà des rêves d'Heisenberg. L'argile dans laquelle les forces qui sculptent toutes choses laissent leurs empreintes avec le plus de clarté. Donc, dans une même phrase, il fait de la poésie, il fait une référence au quark et à Heisenberg. Vous aurez qu'à aller voir ce que c'est la théorie, la mécanique quantique. Heisenberg, c'est un des grands savants de la mécanique quantique.
Et ce qui est aussi intéressant dans Watchmen, moi je me souviens, ça a été le grand choc quand je l'ai lu il y a longtemps. J'avais quand même un début de culture sur l'histoire du comics de super-héros. Ouais. On voit l'arrivée du CCA, on voit l'arrivée de la révolution
CCA,
Watchmen.
C'est donc le code
des comics code authority.
Qui a été instauré fin des années 50.
C'est l'équivalent du code ICE, voilà. À peu près.
Ouais, bon, allez,
à peu près pour simplifier. on est dans le mass média, on est
c'est
obligé
plus
de simplifier.
Part que c'est plus tard, puisque le code ICE, c'est pas à ce moment-là, non?
Et si?
Non, c'est bien avant.
C'est bien avant.
Le code ICE, c'est dans les années 30, fin des années 20.
Alors que le Comics Code, c'est les années 50.
Oui, tout à fait. Voilà. Il y a l'arrivée de la révolution scénaristique que représentent les X-Men par le fait qu'ils sont. En marge de la société, il y a tout ça. C'est quand même un résumé de l'histoire du comics assez étonnant.
Alors, si tu me permets de pas être tout à fait d'accord avec toi,
t'es là pour ça.
Je ne pense pas que Watchmen soit une œuvre qui soit influencée d'une quelconque façon par les X-Men. Mmh. Ce qui est pas du tout pour dénigrer les X-Men, c'est pas du tout ça. Hein. Mais je pense que Watchmen vient d'une lignée qui n'est pas celle des X-Men. Bon. C'est mon avis, je le partage, comme disait l'autre. Hein. Mais bon, si tu fais une photo, je m'en vais.
On l'a fait quand même.
Bon, voilà. Au revoir. Hein.
On va parler. Mais c'est vrai que là-dessus, sur le côté super-héros, il y a une révolution. Il y a aussi le fait qu'il a amené ABC, dans lequel il a amené un tout autre univers, qui est assez important. Et là-dessus, très peu connu en France.
Oui, alors, en deux mots, donc ABC signifie America's Best Comics, qui est quand même... pense l'humour de la part de Moore, mais bon, et c'est donc une collection de comics qui a commencé en 99 où Moore en fait a voulu créer une ligne de BD entière, totalement scénarisée par lui, avec dans des genres assez différents, et ce qui est intéressant, qui ne travaille pas, qui n'est cette fois-ci pas particulièrement influencé par les super-héros, mais justement par les pulps. Donc l'idée de Moore pour créer ABC, c'est de revenir avant les super-héros, c'est-à-dire avant 38, donc début des années 30, 33, 34, hein, le Shadow, Doc Savage, tous ces personnages-là, et créer des personnages qui seraient des descendants de ces personnages de pulps. Donc les pulps étant les romans, en gros les grands mangas américains de l'époque. Hein,
Pulp Fiction, ça explique bien un peu ce que c'est. Voilà, oui. C'est romans à deux balles qu'on achète.
Voilà, mais sachant que dans les pulps, il y avait de tout, il y avait du western, il y avait de l'aventure, il y avait de la romance, il y avait tout ce que tu veux. Bon, et donc en fait, les personnages d'ABC sont des descendants plutôt de ces personnages-là, et Moore a voulu en fait l'idée qu'il avait, qui était extrêmement ambitieuse et assez... on peut se demander s'il a réussi, mais bon. C'était d'insuffler un nouveau souffle, justement, à la bande dessinée américaine grand public, d'aventure. Sachant que, par exemple, une BD comme Promethea, si on a l'occasion d'en parler un petit peu après, commence comme un truc plus ou moins post-Wonder Woman, et ensuite sert à Moore à présenter les théories mystiques auxquelles il adhère, entre autres la cabale.
Bah, ça tombe bien, parce que c'est justement le thème que je voulais aborder maintenant, c'était sa relation avec le monde magique, justement là-dessus, qui est assez important. Et c'est vrai que Promethea, c'est une œuvre qui n'est pas encore traduite en France, et qui est relativement... Fais gaffe, quand les bouquins circulent à l'antenne, en général, après on te dit, tu peux me le prêter pour la semaine?
Non, pas question. Watchmen, là, l'exemplaire que Thomas a entre les mains, je l'ai acheté l'été de mes 18 8 ans, donc je vais sûrement pas te prêter ça.
Non, moi je l'ai acheté, moi, de mon côté. Pas de risque.
Alors tout va bien. Donc oui, alors Qu'est-ce que tu me demandais?
Je disais, sa relation, c'est-à-dire qu'il a. Que vraiment, pour lui, la magie fait partie du monde et n'est qu'une porte qu'il veut ouvrir. Quoi.
En fait, je dois reconnaître que mes connaissances en magie, et en particulier en gnose et en cabale, sont extrêmement limitées. Donc, je vais pas aller très loin. Mais en quelques mots, il y a une bonne dizaine d'années. Un peu plus, aux alentours de ses 40 ans, Moore a commencé à s'intéresser sérieusement à la magie. En fait, quand il était en plein dans le travail sur Fromel, et en fait, d'après ce que j'ai compris, il a une vision de la magie, en gros, qui est assez inspirée donc de la gnose, de la cabale, des travaux d'Alistair Crowley, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Je vois peut-être plus qu'à moi, d'ailleurs, probablement. Et donc, entre autres, une des choses qu'il dit, c'est que qu'il utilise un des mots de Crowley qui disait que la magie était en fait un travail sur les mots, hein, que les mots eux-mêmes, que l'utilisation du langage est une magie en fait. Ce qui d'ailleurs me rappelle fortement la fameuse parole de William Burroughs qui disait que la langue, language is a virus from outer space, donc le langage est un virus d'outre-espace. Donc là, c'était la version SF, donc Crowley, c'était la version magie. Et effectivement, le langage est une magie en tant que manipulation du monde. Hein, le langage manipule le monde, aide à manipuler le monde. Et là, d'ailleurs, on revient d'ailleurs à des idées qui sont pas éloignées finalement des idées chrétiennes, puisque quand même Dieu a donné le pouvoir à l'homme de nommer les choses, de nommer les êtres, et c'est en nommant qu'on a du pouvoir sur les choses. Mmh. Donc ça, c'est une des idées fondatrices de ce type de magie. Et donc, Moore s'est intéressé à ce genre de choses. C'est plus ou moins créé son propre dieu, d'ailleurs, puisqu'il vénère son dieu dans un coin, qui est un faux dieu, littéralement, du deuxième siècle, qui s'appelle Glicon, qui est une poupée inventée par un charlatan, ce que dit lui-même Moore, hein, c'est pas moi qui dis ça, par un charlatan aux alentours du second siècle, je crois, de notre ère à peu près. C'était une sorte de serpent à qui on avait mis une sorte de perruque blondasse sur la tête, et le charlatan en question s'en servait pour devenir un gourou quelconque, comme quoi, ce genre d'idée.
Ses meufs, quoi. Pour baiser gratuitement, quoi.
Meuf et mec, d'ailleurs, parce qu'il se gênait pas, le gars. Et donc, de toute façon, à l'époque, ça posait pas de problème particulier. Donc, on n'est quand même pas que dans le progrès à ce niveau-là. Et donc, Moore, pour la magie, en fait, revenir à Promethea plus simplement, dans Promethea, en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage est donc à un moment, il y a un nouveau personnage qui endosse un rôle qui existe depuis un bon moment, et ce personnage va subir un voyage initiatique en 10 comics, comme autant de sphères de la cabale, comme par hasard, et donc Moore en profite pour présenter une vision du monde, qui est donc une vision inspirée de la cabale. Je ne sais absolument pas à quel niveau il est fidèle à la cabale, parce que de toute façon, quand il est à la cabale, c'est vaste, hein. Donc, aux grandes idées classiques de la cabale, et à quel niveau il n'y est pas fidèle, ça je peux pas dire. Mais il utilise ces idées-là dans Promethea. Et il faut dire là aussi que le dessinateur, J.H. Sullivan III, fait un travail absolument incroyable au niveau narratif, au niveau dessin, au niveau couleur, puisqu'il y a un travail sur la couleur qui est incroyable. Et je pense que Promethea fait partie des bandes dessinées américaines les plus novatrices en matière de narration.
Et toujours pas traduite, malheureusement.
Alors, si je dis pas de bêtises, ce qui a été traduit, c'est les numéros juste avant que le voyage mystique commence. Et je souhaite bien du plaisir au traducteur. Moi, j'oserais pas m'y attacher.
Attention, c'est quand même le type qui a traduit Jack Bickwick, excusez-moi. Ce qui est aussi un bouquin assez intéressant, c'est un peu magique ce que fait le gamin finalement, puisque c'est un niveau où la technologie est complètement fantastique, quoi, dans l'affaire.
En fait, Jack Bickwick fait partie d'une des séries ABC qui s'appelle Tomorrow Stories, qui est une anthologie qu'a lancé Moore, où il y avait en fait 4 séries humoristiques dans des genres très différents.
Rétrofuturistes, la plupart.
Pas seulement, en fait, parce qu'il y en a une qui est en fait qui est inspirée du Spirit de Will Eisner, qui s'appelle Grey Shirt, là aussi, où Moore a fait un travail graphique superbe avec Rick Veitch, qui était un des dessinateurs à l'époque de Swamp Thing. Et Jack Bickwick, lui, est une série humoristique, donc aussi, qui est l'histoire d'un petit garçon qui est un petit génie qui vit dans la cambrousse profonde américaine. C'est au Texas?
Oh non, c'est au Kansas.
Kansas, voilà, je savais bien que c'était pas le Texas. Et le Kansas étant d'ailleurs. Le Kansas étant l'état d'où vient Superman.
Superman!
Voilà. Et donc, mais on voit pas Smallville là-dedans. Et donc, Jack invente des trucs complètement barjots qui foirent la plupart du temps, bien évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Et Moore, en fait, utilise un humour qui a une tonne de références scientifiques. Il y a des références donc à la mécanique quantique, il y a des références au Big Bang, il y a Il y a des références à l'informatique, il y a des références aux tests de Turing dans l'informatique, etc., etc. Enfin, c'est un plaisir. Quelqu'un qui a une culture scientifique et qui aime l'humour de Moore, c'est parfait.
C'est du bonheur. Moi, j'ai pas fait une chronique assez dithyrambique. Du sport, je crois que tu me l'avais emprunté celui-là, non?
C'est moi qui l'ai, l'album.
Ah, merci. Non, mais merci si, de me les ramener de temps en temps.
Mais même si tu t'intéresses pas à la théorie de la physique quantique avec les notes instructives à la fin, tu peux quand même apprécier la BD.
Alors là, en une page,
t'as dû avoir du mal.
Je voudrais remercier l'éditeur de Jack Be Quick, qui est donc Farshid Baroucha, le patron des éditions ASA. Je lui ai proposé, quand on était en train de travailler ensemble là-dessus, et je lui ai dit, écoute, quand même, là-dessus, il y a des tonnes de références qui sont quand même très honnêtement pas très connues par la plupart des lecteurs. C'est quand même pointu au niveau scientifique. Je lui ai dit, écoute, moi ce que j'aimerais bien faire, si tu veux, c'est des notes. Il m'a dit, bah écoute, à la fin du bouquin il y a une page de libre, donc vas-y. Donc je me suis amusé, effectivement. J'espère que c'est lisible et que ça apporte
accessible.
Un peu de culture scientifique.
C'est plutôt accessible.
Bah, j'espère. J'ai essayé de donner une idée du type de contexte scientifique dans lequel Jack Be Quick avait été créé.
Je sais ce que j'ai encore oublié d'amener. C'était la musique de.
Deux.
Bon, ok.
Suivant.
On va entamer ses relations avec le cinéma.
C'est pas compris
peut-être.
Dans le plan, ça.
On va entamer ses relations avec le cinéma.
Ou sa non-relation aussi.
Oui, parce qu'on est super à la bourre quand même. Hein. Du sport, il y a beaucoup de choses, je crois, en ce moment. Ça cartonne aussi en sport et tout ça. T'as des trucs.
Ouais, pas mal.
Ah merde. Bon, alors ben, dans ce cas-là, on va vous passer This Vicious Cabaret.
Cabaret.
Que malheureusement, on n'entend pas dans le film. Et c'est bien dommage parce que c'est vrai que quand on l'a entendu, on était là.
Ils ont préféré mettre un morceau de pop rock juste à la fin du générique quand il y a l'écran qui redevient noir et les crédits. Ça te.
Et vous vouliez que je vienne voir le film. Non, mais franchement.
For every heart on Broadway, they say that life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are wands, forms, and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grind in monochrome. For one thing, down at least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and dare not turn away. And the widows that refuse to cry, be dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, our fingerprints, our crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts goodwill on show, is desperate for her father's love, believes the hand beneath the glove is one she needs to hold. But she doubts her husband's morality, she decides that she is more at ease in the land of doing as she please, and outside in the cold. The backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. The sideman looks to wait the cue, but the pose of mashy smiles. At last, the 1998 show, the torch song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string. Thank you.
Et quand même, notre invité nous a amené notre programmation musicale cette semaine. C'est pas rien, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Vicious Cabaret?
Alors, en quelques mots, Moore, à ses débuts, a beaucoup fricoté avec des artistes de plein de domaines, et entre autres des musiciens. Et donc là, c'est un musicien qui s'appelle David Jay, avec lequel d'ailleurs il a retravaillé des années après, et donc qui a mis en musique des textes, le texte de Moore, qui est en fait le prologue de la deuxième partie de la BD. Donc le morceau s'appelle ce cabaret vicieux, littéralement, hein, c'est pas correct, mais bon. Et donc c'est sorti en 84, en 45 tours. Et maintenant on peut le trouver, je pense que tu pourras toujours mettre les références si tu veux sur ton site. On le trouve sur un CD qui reprend les singles de DJ.
D'accord. Damned, 13h déjà, et c'est dire quand même si le sujet est costaud et qu'on savait qu'en faisant venir l'invité avec Thomas, on se disait il va falloir qu'on se limite dans les questions à mort, mais il y en a une qu'on ne pouvait pas éviter, notamment avec la sortie du cinéma, c'est la relation d'Alan Moore avec le cinéma. Alors pourquoi est-ce qu'il a renié tous ses précédents films?
Parce qu'ils sont mauvais.
Je dis ça pour ceux qui n'ont pas vu les BD, donc ils sont vraiment mauvais, on est d'accord.
En quelques mots, Moore n'a pas... pas beaucoup d'intérêt pour le cinéma en général, même s'il a quand même une certaine culture cinématographique, il en a déjà parlé. En quelques mots aussi, il a quand même touché une jolie somme quand Formel a été faite, a été adaptée, puisque Formel lui appartenait, contrairement à Vifor en état. Je pense qu'il a pas particulièrement apprécié ce qui en a été fait, effectivement. Il a toujours refusé de travailler pour le cinéma, sauf une fois où Malcolm McLaren lui a fait écrire un scénario qui était en fait, en gros, une vie de Christian Dior vue à travers La Belle et la Bête. Ça s'appelait Fashion Beast, ça n'a pas été réalisé, c'est le seul scénario pour le film de Moore qui existe. J'ai eu du mal à le comprendre d'ailleurs, je l'ai lu, mais bon. Voilà, c'est vrai qu'il a une relation extrêmement tendue avec le cinéma, enfin elle est plus que tendue, elle est carrément cassée maintenant, hein, puisque comme tu dis, non seulement il veut plus en avoir avec le cinéma, plus en avoir à faire avec le cinéma, mais carrément pour vie, et d'ailleurs pour Hellblazer, qui est un film qui adapte une histoire dont le personnage de base a été créé par Moore et ses artistes dans Something, John Constantine. Eh ben, pour ces films-là, il n'a pas pris l'argent. L'argent qui lui serait revenu.
Il refuse même d'être crédité.
L'argent qui devait lui revenir a été partagé entre les artistes. Et effectivement, le nom de Moore a été retiré du film. Vif en état. Bon, il y a plein de gens qui trouvent qu'ils vont trop loin. David Lloyd n'est pas du tout du même avis que Moore sur Vif en état. Je pense qu'il est sincère. J'ai aucune raison de penser le contraire. Lloyd est quelqu'un qui donne une impression d'intégrité.
Oui, dans une interview qu'il a donnée à La Libre Belgique, je crois me souvenir qu'il avait trouvé que finalement l'adaptation était loin d'être merdique.
Mais je pense que c'est pas un mauvais film. C'est
Thomas.
Pas...
Bon.
Moi, j'ai une interview qui est reprise dans Intramuros, avec une interview de Joel Silver, accordée à Joel Silver.
Comment... C'est la faute de Silver si Moore a cassé.
Voilà. Comment réagit...
C'est le producteur. Hein.
Il y a le journaliste qui lui demande à Joel Silver comment réagit Alan Moore en voyant le film. Je ne sais pas si Alan Moore a vu le film, il n'a pas eu, je crois, beaucoup de bonnes expériences avec le cinéma. Il ne voulait pas être impliqué dans le processus d'adaptation de V for Vendetta. J'espère qu'il pourra voir le film et qu'il appréciera.
Joel Silver a menti. Joel Silver a affirmé que Moore était intéressé par le projet de scénario qui lui avait été présenté sur Vif en état et que Moore avait bien envie de donner un coup de main d'une façon ou d'une autre. Moore a explosé à ce moment-là, littéralement explosé, a demandé à DC de demander à Silver de lui présenter des excuses. Vous imaginez bien la place que DC a par rapport à Joel Silver, sachant que DC Comics fait partie de Warner Bros. Hein.
Oui, c'est le même groupe.
Donc ça n'a pas été fait. Moore a dit, bon bah ça suffit, au revoir. Moore a coupé tous les ponts avec DC. Le prochain volume de la Ligue, qui était déjà écrit, va paraître chez DC, mais les suivants paraîtront chez un autre éditeur. Et Moore, je pense, ne fera plus jamais rien pour DC. Là, ça m'étonnerait qu'il revienne en arrière. Enfin, je sens qu'il est jamais vraiment revenu en arrière, mais bon.
C'est quand même paradoxal, quoi. La position d'un auteur prolifique et talentueux par rapport grand groupe. Mais
il faut quand même voir que Moore, il y a 2-3 ans, avait annoncé qu'il arrêterait de faire de la BD grand public. Il ne ferait plus que des œuvres personnelles. Ça, il l'avait annoncé, de toute façon. Donc, à ABC, c'était fini, ça, c'est certain. Mais si ça s'était mieux passé, je pense qu'il aurait écrit quelques trucs par-ci par-là. Entre autres, il y avait un projet de graphic novel avec Jim Lee. ce qui aurait été une énorme vente aux États-Unis bien évidemment.
Ah oui, parce ça, que Jim Lee,
Jim Lee surtout que tu apprécies le travail de Jim Lee, hein.
Oh, c'est rien de le dire.
C'est un dessinateur mainstream de comics, hein, voilà, il fallait le préciser.
J'ai rien contre Jim Lee en particulier, je pense que c'est quelqu'un qui a un talent certain, j'aime pas son esthétique. Ça, j'y peux rien.
Thomas, du sport va m'étriper, donc je crois qu'on va peut-être éviter l'histoire du fight entre Sean Connery et Stephen Norrington lors du montage de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Il n'y a rien de spécial à dire dessus.
Mais par contre, tu peux peut-être en faire la chronique.
On peut parler, non pas de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais du film V pour Vendetta tiré de la BD. Donc de toute façon, comme on n'a pas parlé des synopsis, des histoires de toutes les BD dont on a parlé, je ne vais pas le faire maintenant. Alors moi, je voulais juste signaler que à la décharge des frères Wachowski pour leur scénario et de James Wachowski, pardon. Wachowski. Comment tu dis va
ou je sais pas, moi je dirais Wachowski, mais je suis pas du tout sûr de moi.
Wachowski, d'accord. Et de la réalisation de James McTague. Il faut quand même reconnaître que la BD d'origine était assez extrêmement bavarde, faite de monologues, des justiciers. C'est une BD avec des justiciers, mais pas beaucoup d'action. En ce moment, tu sais, ce qui cartonne, c'est quand même Spider-Man, les X-Men 3, la subversion de
Superman. Mais X-Men 3, Superman. Je pense, c'est un film de très bonne qualité. Enfin, X-Men 3, je l'ai pas vu, pardon.
X-Men
et X-Men 2 sont des films de très bonne, enfin, je pense, de très bonne qualité. C'est des vrais films d'action qui ont des vraies thématiques sur la place des minorités dans la société. Bon, moi, j'y suis sensible, on peut l'être plus ou moins, mais je pense que ce sont pas des mauvais films. Et je pense que Il y a rien. Pour moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on enlève des éléments à l'œuvre d'origine, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on pouvait pas adapter. Après, il y a le fait d'être fidèle ou pas à l'esprit de l'œuvre d'origine. Ça, c'est un choix.
Là, je peux te garantir. Enfin, pour ma part, en tout cas, je pense qu'ils ont été fidèles à l'esprit, puisque
sauf le problème de l'anarchie, quand même.
Enfin, voilà. et puis aussi le fascisme, c'est bien. Grâce au fascisme, on aura tous l'opulence dans nos foyers. On aura tous des écrans plats JVC.
Quoi,
oui.
Les Italiens ont tous des écrans plats.
Ouais. Mais t'imagines une adaptation de BD et de justicier en soi. Qui sort avec plein de dialogues qui sont couverts.
Mais V n'est pas un justicier.
Non.
V est un terroriste.
Un terroriste masqué.
Est un terroriste. Oui, bah.
un peu comme Batman dans Red Star, mais. Dans Red Son, pardon. Ouais. Mais Thomas a un truc important à dire.
Vas-y, Thomas. C'est vrai que t'as un truc important à dire ?
Oui, il paraît, ouais. Et je disais, oui, c'était assez difficile de sortir un film avec très bavard en ce moment, puisque de toute façon, les dialogues seront de toute façon couverts par les pop-corns. Mais ce que je trouve intéressant de la part des frères Wachowski, qui avaient.
Ceux qui ne doivent pas être
nommés. Les brothers, ouais. Il faut le reconnaître quand même dans Matrix, il y avait le scénario servait d'alibi aux prouesses, les prouesses physiques avec les câbles et numériques. Mais bon, c'était quand même les scènes de dialogue étaient quand même extrêmement bavardes. C'est quand même un truc qu'on peut pas leur enlever. Donc
c'est bien joli d'être bavard, mais il faut avoir quelque chose à dire.
Mais oui, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que V pour Vendetta, ils ont gardé des monologues entiers et non coupés.
Et ça, je pense que c'est quasiment la première fois dans une adaptation grand public de bande dessinée.
Ouais. Tu as du truc à dire, Sabrina ? Vas-y, parle au micro.
Non, mais Sabrina.
Vas-y.
Sabrina.
Non, je voulais juste faire tirer mon chapeau pour l'acteur qui joue
Hugo Weaving.
Oui, qui joue V. Quand il fait sa tirade shakespearienne devant Evie avec tous les mots
scantés
par vicious,
oui. Ah, c'est vrai qu'il faut voir. Alors, je sais pas comment ils ont réussi à rendre ça en français, mais le texte de Moore est plein de V.
Alors ça tombe bien parce que en centre-ville il est projeté uniquement en VO sous-titré.
Oh. Et déjà, bravo. Ça, c'est tout à fait représentatif.
Bravo.
Ça, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils pensent que de toute façon, il n'y a pas le public pour le passer en VF.
C'est clair, c'est proche de la sortie technique, hein, puisque
Néanmoins, j'ai lu que le film avait quand même fait 40 millions de dollars en 15 jours aux États-Unis.
Non, mais c'est pas un succès.
C'est pas un succès, c'est pas mal, quoi, déjà. Hein. Un échec. Oui.
Mais c'est pas un gros film hollywoodien, c'est pas X-Men, c'est pas Spider-Man. C'est effectivement une œuvre d'auteur. Mm-hmm. Bon. Mais quel auteur ?
Bon, l'auteur, c'était James McTague qui avait été premier assistant sur les Matrix et sur Star Wars 2, l'attaque des clones. Et quand même, non, c'est son premier film, je déconne.
Très bien le Star Wars 2. Bon, le 1, d'accord, n'en parlons pas.
Le 3 est
excellent. On va pas se lancer dans Star Wars quand même.
Voilà, c'était juste pour dire que la mise en scène.
Star Wars d'ailleurs.
que la mise en scène savait se mettre au service du scénario et de l'histoire et qu'elle n'était pas du tout tape à l'œil comme on pouvait l'attendre d'un premier assistant réalisateur de Matrix. Tout juste, y a-t-il un combat final ?
Les couteaux qui volent et tout quand même.
Oui, il y a les couteaux qui volent, un combat final avec quelques ralentis, mais vraiment c'est extrêmement sobre.
C'est esthétisant, on n'a pas oublié le bullet time.
On a un voilà. Non, il y a pas de bullet. Oui, bon. C'est un peu
tout ça, c'est la faute à John Woo de toute façon.
Voilà. Et il y a un plan de la caméra qui est dans le barillet du flingue. Bon, voilà, il y a quelques trouvailles visuelles, mais dans l'ensemble, c'est assez sobre.
C'est pas une trouvaille, ça a été utilisé dans le générique de Lord of War.
Non, c'était pas dans le barillet d'un flingue, c'était dans un AK-47. Et on peut aussi trouver des images assez inhabituelles pour ce type de production, parce qu'on a des baisers lesbiens, on a les mains brûlées de V, puisque d'habitude les super-héros, enfin les héros.
Mais V n'est pas un héros. C'est ça qui est intéressant dans V, c'est que V est un méchant.
C'est un personnage principal dans ce cas-là.
Voilà, le personnage principal.
Il y a trois baisers lesbiens, il y a deux homos.
S'il te plaît, c'est moi qui fais la chronique!
On a l'actrice principale qui est rasée en direct, donc je veux dire des cheveux, et on a aussi le meurtre d'une fillette, donc quand même on n'a pas l'habitude de voir ce genre de truc dans des productions avec ce type de casting. Je voulais juste aussi terminer par parler de ceux qui avaient lu la BD avant. Donc effectivement, de façon adaptée, c'est trahir. Voilà.
Oui,
il y a quelques raccourcis qui sont liés à la suppression.
Traduire, c'est trahir d'ailleurs.
À la aussi. Ouais. Et à la suppression d'un personnage secondaire qui était la femme de Ayer. Mm-hmm. Donc à partir du moment où elle.
Là, ils n'avaient pas le temps probablement dans un film entier de garder cette sous-intrigue là.
Voilà.
Ça
donc du coup, tout est supprimé qui est lié
sûr,
avec elle. Il y a des raccourcis liés au personnage de Finch qui se substitue un peu au personnage de Creedy. Bon, il y a l'amalgame qui a été fait dans le film. Bon, ça passe quand même.
C'est acceptable ça.
Et alors, hormis le fait que la voix du peuple, c'est plus la radio, c'est la télé maintenant, puisque ils ont dû être transposés aussi dans le futur. Et aussi, il y a deux scènes importantes qui ont été remodelées, qui sont l'introduction et la fin.
Ah.
Oui, voilà.
Oui. Et mais V n'est plus ce qu'elle était.
Voilà, et franchement, on aurait pu s'attendre à bien pire. Hein, Xavier ?
Oui, c'est vrai que finalement, aussi bien graphiquement que sur l'ensemble du suivi du scénario, moi j'ai été étonné que ça a été bien fait. Que finalement, ils ont remodelé le coup de la date. Ils ont renouvelé la date pour un usage qui est assez étonnant. C'est en fait réutiliser l'idée du compte à rebours qui est généralement utilisé en science-fiction pour faire un suspense. Là, ils ont réutilisé l'idée d'une date butoir pour un suspense. Et là, j'ai été surpris. C'est-à-dire, ils ont inversé justement la suite des attentats. Ils ont inversé justement les dates. C'est plutôt bien foutu, quoi. Ouais. Finalement, j'ai été très déçu en tant que fan de la BD, mais finalement, au cinéma, je dois avouer, oui, c'est un très beau spectacle et bien foutu. En tout cas, ceux qui ont été fans de la BD, n'essayez pas de trouver repentance dans le film. Le film est un bon divertissement, mais par contre, pour ceux qui vont voir le film, qui vont adorer, après, c'est vraiment l'occasion de s'acheter l'intégrale chez Delcourt parce que ça vaut vraiment le coup. C'est du très bon, quoi.
Oui, sauf que c'est imprimé sur papier glacé et puis on voit un petit peu les défauts de colorisation.
Ah. Et oui, il faut voir que la couleur a été faite pour le papier comics de l'époque, ouais. Qui déjà d'ailleurs tout de même était un papier meilleur que celui de base de l'époque, donc fin des années 80. Mais bon, c'est pas du tout le même type de papier que le papier français des albums, ça c'est certain. Ouais, ouais. C'est un problème d'ailleurs de l'adaptation des comics en BD française d'ailleurs. Ah, oui.
L'édition des Watchmen en papier glacé, c'est atroce.
Alors que par exemple, il y a une édition de Watchmen toute récente aux États-Unis qui est une édition de luxe qui vient juste de sortir, la version absolue, donc qui est grand format, le format français sur 500 pages, etc. etc. C'est une beauté. Mais là, ils ont un papier qui n'est pas un papier glacé, qui est un papier épais, qui absorbe les couleurs plutôt justement, parce que le papier glacé ne les absorbe
tout
pas.
À fait.
Et là, c'est une beauté incroyable. Et tous les lecteurs français qui ont hurlé contre le travail du coloriste Johnny Gins sur Watchmen, qui pour moi est un grand coloriste et d'ailleurs un grand dessinateur totalement inconnu chez nous aussi. Eh ben, il faudrait qu'ils voient cette édition-là. Mais bon, elle coûte $75.
Ah oui, quand même. Du sport, je sais que tu vas me massacrer quand tu vas voir l'heure.
Juste une question.
J'ai regardé juste avant.
Juste une question pour finir. François nous l'avait suggéré hors antenne, mais on l'avait quand même incluse dans le plan. Quels sont les projets d'Alan Moore?
Ouais, alors très très rapidement. Donc Moore a priori n'écrira plus de BD grand public. Les quelques grands projets qui restent là en ce moment, pour lesquels on est au courant, il y a Lost Girl qui est une BD pornographique qui a été dessinée par sa petite amie qui s'appelle Menda Gebbie, qui va enfin sortir après. il l'a commencé en même temps que Fromel. Donc ça veut dire qu'elle a plus de 15 ans la BD, hein. Ah, mais il a mis énormément de temps à la faire. Elle va sortir dans plusieurs pays en même temps. Je pense qu'elle va sortir chez Delcourt, mais là je suis pas tout à fait sûr de moi. Ça va sortir sous la forme de 3 gros albums de 80 ou 100 pages. Et c'est une BD qui met en scène des personnages d'ailleurs référencés, puisqu'il y a le Dorothée du Magicien d'Oz, il y a Wendy de Peter Pan et Alice de Alice au Pays des Merveilles. Bon, mais dans un univers complètement réaliste, et vous allez voir, ça va donner. Ensuite, il y a un autre roman, il y a un deuxième roman qu'il va faire, puisque son premier roman n'est pas sorti en France, mais est ressorti aux États-Unis relativement récemment. Et puis, il a un autre projet avec Oscar Zarate, donc le dessinateur de Small Killing, Une Petite Mort. En gros.
D'accord. Voilà qui clôt. Avec François Penaud qui nous a tenus en haleine, mais franchement on n'a pas vu le temps passer et c'était un bonheur de te recevoir. Merci. À noter aussi que le monsieur écrit d'excellentes chroniques dans Actua BD, en plus d'être traducteur d'Alan Moore sur certains bouquins, dont
notamment
Jack.
C'est pas la peine de dire ça, tu ne seras pas payé si tu travailles sur Actua BD.
Oui, mais c'est, justement
c'est des bénévoles. Hein.
C'est un travail bénévole qui est plutôt.
On m'a menti.
Qui est quand même un site de référence dans le milieu professionnel sur la bande dessinée et du sport, qui est en train de me regarder d'un regard noir. Du sport, qu'as-tu à dire ?
Ah bah, je vais continuer dans la foulée avec la sortie du Comic Box. C'est bien entendu une des déclinaisons de Man Movie là, qui en fait de plus en plus, hein, du Man Movie. Hein, il y a même un...
Enfin, ils ont repris Comics Box qui existait auparavant, qui était un mensuel.
Ouais. Et là, celui-là, il est plus intéressant parce que il parle justement un petit peu du sujet qui nous a intéressé pendant un petit peu plus d'une heure, à savoir Alan Moore, et surtout à travers les Watchmen. Avec une couverture que je n'ai pas parce que je l'ai acheté en kiosque tout simplement, mais qu'on peut se procurer si on est abonné, ou alors dans certains comic shops, la couverture de Watchmen, putain, 20 ans, avec une interview assez longue de Dave Gibbons. Pas d'Alan Moore parce qu'il a pas voulu, mais il y a également une interview de Mike Mignola quoi, sur la fin de Hellboy, d'autres articles intéressants, une BD inédite de Superman, enfin bon, le principe de la BD inédite, ça c'est devenu une habitude maintenant pour Comic Box, et surtout des nouvelles de la série animée Les 4 Fantastiques qui doit arriver chez nous pour la rentrée prochaine, je crois pour septembre, octobre prochain, à la télé, hein, une série animée 4 Fantastiques. Donc,
par les Français.
C'est les Français. Par des Français, en plus, voilà, c'est ça, j'allais le dire. Pardon. Merci. Tout ça dans Comic Box et bien d'autres choses. Sinon, tu m'avais balancé du sport, trouve-moi des séries qui parlent un petit peu du même trip que V for Vendetta. Et
oui, parce qu'en fait, si tu veux, on était à la Cinémathèque hier pour l'ouverture de Extreme Cinéma, et puis tout d'un coup Xavier se réveille et dit: ah ouais, tiens, on va demander à du sport nous pondre un petit sujet là pour demain.
C'est pour ça que vous étiez essoufflé, quoi. Cheese the Killer, ça dégage, quoi.
Tu peux pas savoir à quel point, hein, c'est grave.
Ça découpe, je dirais.
Alors bien entendu, on m'a soufflé à l'oreille Star Trek, bien entendu, il y a que des militaires dedans, il y a très peu de civils. Bien que ce soit plus des militaires qui agissent pour une espèce d'ONU intergalactique, on va dire, hein, grosso modo, mais on peut se poser la question, le pacifisme peut-il être totalitaire ? C'est la question de Gene Roddenberry dans toutes les déclinaisons de Star Trek, hein, parce qu'il y a même un moment la résistance, le Maquis dans Deep Space Nine, donc bon, attention, hein. Il y a également V, hein, alors là c'est bon, en plus dans le trip les séries et les envahisseurs qui viennent et puis ils viennent nous emmerder. Hein, ce que nous on a, ça leur plaît, donc allez dégager et tout.
Elle est bien, bon, ta planète.
Hein, dans le style La Planète des Singes, il y a V, bien entendu.
V a préféré la mini-série téléfilm plutôt que la série à épisode après. Hein.
Ah, et la spin-off d'après.
Elle est meilleure, elle est beaucoup plus cohérente. Effectivement, c'est beau, c'est beaucoup plus intéressant.
Ah, bah oui, tout à fait.
L'autre, elle n'a pas de fin en plus.
Oui, mais ça c'est parce que ça a pas marché.
C'est le cas de nombreuses séries télé également, hein, qui s'arrêtent d'un seul coup comme ça. Puis bon, on sait pas trop. Bah, c'est le cas justement d'une série qui est un petit peu dans ce monde-là, qui avait été initiée par Chris Carter, Arch Rim, qui avait fait que 9 épisodes, je crois 13 tournées,
une
donc
adaptation
9 seulement,
de comics, d'ailleurs aussi.
Une adaptation, c'est certainement avec cette histoire de personnages qui sont balancés dans un monde virtuel où ils doivent sortir d'un monde totalitaire. Il y a des militaires, il y a Terry O'Quinn qui joue le rôle du colonel Santiago. Enfin bon, ça marque quand même. Et c'est une série qui est pas du tout marché. Il y a une série qui est passée quand même un petit peu inaperçue. Je vous en avais parlé au début. C'est Charlie Jade, cette série qui est très récente. Hein, c'était espèce de coproduction sud-africaine, canadienne, et voilà, à très gros budget, genre on te balance des millions de dollars par épisode et tout. Et c'est pareil, hein, c'est vraiment une ambiance. Bon, c'est tourné en Afrique du Sud, donc c'est vrai qu'au niveau des paysages, avec des filtres colorés
assez lourds,
ouais, assez lourds, hein, comme ça, des ambiances un petit peu très. Et c'est vrai que bon, on est
ça, dans ça passe sur France 4, si tu veux
savoir. Ouais, ça passe sur France 4. L'histoire, une espèce de conglomérat. Au début, il y a des trois mondes parallèles, hein, dans lequel on se retrouve le monde tel qu'il devrait être et le monde
tel qu'il sera
quand les hommes l'auront complètement détruit, enfin un truc comme ça, tu vois. Bon, faut suivre quand même, quoi, mais c'est assez intéressant quand même, c'est un petit peu d'intrigue. Et quand même la série emblématique, parce que bon, tu m'as aiguillé en me disant ouais faut aller chez les Anglais, puis bon, c'est normal, hein. La série emblématique quand même, hein, de ce trip, c'est Le Prisonnier, quand même.
Grandiose,
initié par Patrick McGowan et George Markstein. Faut pas oublier George Markstein, qui est d'ailleurs un auteur de polar, enfin polar espionnage, on va dire, hein. Il a fait aussi Espion lève-toi, c'est de George Markstein, me semble-t-il, ainsi qu'un autre bouquin paru dans la série noire, et qui a initié ce Prisonnier avec Patrice McGowan. McGowan a développé cette idée, puis réuni les fonds, a carrément tout construit pratiquement, hein, c'est-à-dire il a fait venir un architecte pour trouver le patelin qu'il fallait, le
Porte-Marion,
tout ça. Et bon, lui-même écrit les scénarios des deux derniers épisodes de Patrick McGowan, en a réalisé quelques, et il y en a quelques qu'il a réalisé. Ça, c'est la question qui tue de l'enfer, que tu trouveras jamais la réponse. Patrick McGowan, il, en fait, pour signer la réalisation de deux épisodes, il a utilisé un pseudo.
Ah oui, c'est par le droit.
Il n'avait pas encore les droits. Alors, il faut me trouver le nom du pseudo. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine, les gars.
Allez, oh, j'ai un bouquin sans prisonnier.
Bon, alors, il n'y a pas de problème. Et il y en a une autre.
Et on gagne quoi si on trouve?
Ah bah, ma considération ultime.
D'accord.
De toute façon,
on gagne pas ton t-shirt. Hein.
Ah merde.
J'aurais pu m'en douter.
Je t'ai donné l'adresse. J'avais trouvé une autre, mais alors là, à Petaouchnok, qui s'appelle Edge of Darkness, également produite par la BBC en 6 parties, avec l'histoire d'un détective qui au départ enquête sur la mort de sa sœur, et puis au bout d'un moment il découvre qu'il y a des complots politiques, qu'il y a du terrorisme écologique, du plutonium volé, et en plus il y a sa sœur qui lui apparaît comme un spectre. C'est une série en 6 parties, hein, diffusée par la BBC, avec quand même Joe Don Baker, avec Bob Peck, avec Joanne Wallet, qui à l'époque n'était pas encore Madame Val Kilmer, elle s'est séparée depuis pas mal de temps, et Hugh Fraser, que j'ai pas eu le temps de rechercher, mais qui joue le rôle d'un inspecteur dans une série britannique, hein, c'est, je crois, inspecteur et associé, me semble qu'il y a Hugh Fraser dedans, donc mais enfin bon, la série vraiment que tu trouves dans l'encyclopédie de TV machin, te disent c'est les séries que vous verrez jamais, et vous en entendrez plus jamais parler après, de toute façon. Sinon, il y a quand même de la nouveauté, il fallait quand même que j'en parle, hein, de toute façon, quoi. Alors si j'avais voulu faire cheap, facile et tout, quoi, j'aurais pris l'eBay d'aujourd'hui et je vous aurais pendu les deux pages. Moi je fais toujours mon programme avant de lire l'eBay, quoi, donc effectivement ils en parlent. J'aurais pu vous parler de Ruby, parce que ça c'est vraiment très intéressant, mais comme toutes les telenovelas et tous ces trucs là, ils nous les passent l'après-midi, c'est-à-dire à l'heure des ménagères. Les travailleurs laborieux, hein, qui sont occupés, ben les telenovelas, ils pourront jamais les regarder. Merci.
C'est dommage.
On avait eu quand même des prémices, hein. Rappelez-vous, l'an 2000, l'été 2000, le trou dans les chaînes de télé françaises, et cette sublime apparition, Chiquinha Gonzaga, une telenovela brésilienne qui était absolument magnifique, excellente. Mais que dis-je, c'était génial.
Et là, Ruby était bien traduite d'ailleurs.
Ruby, non, c'était vraiment très bien. Bon, franchement, très très bien, génial. Vraiment génial. Là, il s'agit d'une telenovela colombienne, Ruby. Alors là, bon, c'est plus la femme moderne, enfin bon, vraiment la salope, genre salope à fond, quoi. Elle veut tout, elle l'aura, mais par tous les moyens possibles et imaginables. 118 épisodes, donc y a moyen, ça démarre sur M6 à partir de lundi. Sinon, je voulais parler surtout d'Entourage, hein, une série qui démarre ce soir sur TPS Star. Petit format, 30 minutes. Par contre, c'est produit par HBO. C'est produit par un acteur qu'on connaît bien, moi j'aime bien personnellement, Mark Wahlberg, le frère de Donnie, et interprété par Adrian Grenier, Kevin Dillon, Kevin Connolly et Jerry Ferrara. L'histoire, elle est très simple. Ah bah, c'est l'histoire d'un acteur qui est repéré comme ça à New York et qui débarque à Los Angeles, qui devient vachement connu, genre acteur qui se vend à 4 millions, 5 millions de dollars le film, tu vois, et c'est de raconter un petit peu l'histoire de ce mec-là avec ses à côté et le mec qui vient pratiquement de la rue, hein, c'est-à-dire bon bah ok, hein, qui a eu un coup de peau et puis claque, produit catapulté grosse star et tout, film, grosse action et tout. Et donc c'est l'histoire de ce mec-là, ce qu'il devient, comment il réagit dans le monde du showbiz, qu'est-ce qui se passe. Et bon, c'est une série qui est vachement acerbe, c'est-à-dire bon bah ok, on y va, ça casse à fond les manettes. Ils peuvent se le permettre, hein, c'est sur HBO, donc relativement tranquille. C'est Mark Wahlberg donc qui est producteur, il est également présent dans le pilote, et au niveau guest star, ils ont foutu le feu à fond les manettes.
Avec tous ses potes.
Jessica Alba qui apparaît, James Cameron, Malcolm McDowell, U2, en veux-tu, en voilà. Tout ça, donc, c'est sur dans Entourage, qui est diffusé sur TPS Star à partir de ce soir à 20h. Sinon, une nouveauté anglaise, et là bah depuis une saison, c'est quand même Paris Première qui nous sort quand même les meilleures nouveautés au niveau série anglaise. Là, ça s'appelle 55 Degrees North, et c'est l'histoire à travers le thème de l'intégration, hein, bah on est en plein dedans en ce moment, hein, d'un détective noir black qui vient de Londres, donc une ville vachement cosmopolite, et qui va débarquer dans une ville qui est vachement moins plus cosmopolite. Vous supposez qu'il faut monter vers le nord, bah ouais, 55 degrés nord à Newcastle. Et donc, bah, ça va le faire un petit peu comme ça. Le lieutenant Cole est interprété par Don Gillette.
C'est pas là où il y avait eu récemment des incidents pour racisme auprès de supporters de foot.
Il y en a partout en Angleterre.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'y en a pas qu'en Angleterre.
Ne t'en fais pas. Donc, c'est diffusé par Paris Première à partir de mercredi prochain, 20h50. Et pour terminer, quelques petits guest stars dans les séries à venir. Déjà, vous avez dit du mal de Joël Silver, pourtant c'est le mec qui fait une des séries les plus intéressantes du moment, qui produit l'une des séries les vraiment, non, j'en dirais pas plus. Et c'est pas uniquement parce que Véronica Mars a un super sourire, tu vois. Pas un sourire qui te fait craquer, genre qui te fait grimper au rideau comme le loup dans Tex Avery. Non, mais genre t'es là, t'es, ouais, non, franchement. Et donc dans l'épisode de mercredi, eh bien apparition d'une actrice qu'on a vue dans une série dont le créateur est le fan absolu de Veronica Mars, et il fait d'ailleurs une apparition dans la deuxième saison. Il s'agit de Joss Whedon, donc il s'agit de Buffy the Vampire Slayer. Et la nana qui apparaît dans Veronica Mars, bah, on le sait déjà parce qu'on a vu une photo dans l'épisode de mercredi dernier. En fait, c'est la sœur de Logan. La sœur de Logan, hein. Logan, c'est le mec qui est un petit peu l'emmerdeur, fils de riche, enfin ils sont tous fils de riche là-bas, et lui en plus son père c'est Harry Hamlin, tu te rends pas compte, Harry Hamlin, le mec qui a fait un bébé à Raquel Welch, tu te rends pas compte mon gars.
Non, tu te rends pas compte.
Donc Allison Hannigan qui joue le rôle de Buffy, de Willow pardon, dans Buffy, qui fait une apparition dans Veronica Mars mercredi prochain sur 13ème rue. Il y a également là dans la série des guest stars mon oncle Charlie, ouais, le retour de mon oncle Charlie, cette série humoristique aussi un petit peu satirique sur les milieux du showbiz, avec Charlie Sheen dans le rôle titre bien entendu, hein. Alors avant de nous diffuser les saisons inédites, on nous rediffuse depuis le début avec le pilote, bah guest star quand même, Sean Penn et Elvis Costello, mon gars, ça c'est pas mal. Il y a Denise Richards qui viennent par la suite.
Ah ouais.
Lucy Lawless, enfin bon, oh, Lucy Lawless elle est géniale, hein, de toute façon. Que tu vois ce truc, c'est assez bien. Tout ça donc dans Mon Oncle Charlie, c'est diffusé vendredi prochain sur Canal Jimmy. Et en ce qui concerne le cinéma, il y a une seule soirée, c'est demain sur Arte. La soirée, il était une fois le Western Spaghetti.
Oh yes!
Avec tout d'abord le premier, il est connu, hein, c'est Django, hein, le Corbucci de 66 avec le beau Franco Nero, là, qui a été un des meilleurs, hein, faut dire, dans les Western Spaghetti. Hein, mais c'est surtout, c'est surtout parce que c'est l'athéma donc complète de Arte, suivi par un documentaire inédit à 22h10, car ils sont sans pitié. Ouais. Et surtout parce que à 23h40, deuxième film Western Spaghetti, attention, tiens-toi bien, le triomphe des 7 Desperadas. Là, c'est plus des mecs, c'est des nanas. Et c'est une coproduction autrichienne-italienne, donc, avec Anita Baxter, avec Annie Maria Fesci et Gustavo Rojo. tout ça c'est pas mal quoi, tu vois quoi. Donc c'est demain soir, c'est dans la théma de Arte. Le premier, bon, il est connu hein, de toute façon quoi, Django hein, c'est un des gros classiques. Et en ce moment à la télé, il y a beaucoup de western spaghetti, c'est assez intéressant. Jetez un coup d'œil sur vos programmes respectifs. En ce moment, ils y vont, ils diffusent ça à la chaîne. Hein. On a vu Plata la semaine dernière, on a vu Sabata, on en a vu plein.
Laisse-moi deviner, Berlusconi avait besoin de financer sa campagne électorale.
Peut-être.
D'accord.
Voilà. On n'a pas battu le record, hein.
Non, il est 13h28 minutes et 33 secondes.
Là, c'est bon, là.
Oui, parce qu'on explique à notre invité François Penaud que notre corps est. On aurait tenu 5 minutes de plus en débordement et du sport aurait pratiquement fait une croix. Non ? Non, je crois qu'on a fait jusqu'à 50 une
50,
fois.
50, ouais, 50.
Mais bon, et pendant qu'il va changer de place et moi je vais débrancher mon casque, donc je serai un peu sourd pendant quelques instants, et ben ma foi, il va falloir que Thomas fasse le résumé de l'émission.
Dans le procès-verbal de l'émission d'aujourd'hui, Xavier a pris Alan Moore pour un dessinateur. Floraison de correction de Xavier par François. François qui corrige Xavier. Xavier repris par François. Xavier a repris François sur la Kansas de Jack Bickwick. Et des remarques de Sabrina. Aujourd'hui, Xavier a été cassé tout le long de l'émission et Xavier a parlé tout seul.
Je vais finir jeune poussin, je pense.
Je t'ai cassé.
Enfin bon, François, merci d'être venu. J'espère
merci
que ça t'a plu. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Thomas, oui.
Non, vas-y.
Bon, juste pour vous dire qu'à partir de 15h, c'est en mode progression. 16h Big Bang avec en invité DJ WeFunk, qui est quand même le spécialiste du two-step sur Radio Campus. Et ça fait plaisir de le recevoir sur FMR. 17h Vie d'ordure sur U-Punk. 18h Protésez-vous. 19h Happy Hour. 20h La C0 Experience avec DJ Tro et quand c'est trop, c'est tropico. 21h30 Quick Skype. 23h Breakbeat Experience. C'est de la drum and bass.
La semaine prochaine, une spéciale Silent Hill où on reçoit Christian Mondo de Church TV. On vous promet de la ferraille, de la rouille et de l'horreur.
Et franchement, on peut vous dire que ça va déferrailler d'ailleurs sec. Et,
ouais,
et vous allez
avec
voir
de la
que...
sirène et tout et tout.
Et vous allez voir qu'à plus de... Vous allez voir qu'à plus de
30 poils qu'avec Alan Moore.
Oui, mais vous allez voir qu'à plus de 30 ans, on n'est pas forcément rouillé pour le jeu vidéo. Loin de là, parce que c'est quand même un spécialiste assez vénérable dans le jeu vidéo. Voilà. Je cède la place à du sport.
Attends. En ce moment, il faut rappeler quand même
qu'il y a
un nouvel manga à l'ABC.
Ah oui, exact. Toujours en exposition au cinéma l'ABC. C'est ouvert de midi à minuit, si je me trompe. Et il y a aussi Extreme Cinéma.
Le festival Extreme Cinéma. Itchy the Killer, c'est fini. Mais vous pouvez toujours aller voir Le Fast and New et d'autres bizarreries comme House of the Thousand Corpses ou Naked Blood.
Et tu oublies
1984.
Nothing.
Et Nothing,
ah oui,
le film
c'est vrai
clôture.
C'est vrai qu'il y a 1984. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Merci. Du sport, de suite.